Tiens, pour une fois, on va parler de deux lapins. Ce sont deux personnages, deux lapins donc, qui à eux seuls résument et synthétisent une grande partie de l'histoire des dessins animés. Le premier, c'est Bugs Bunny.
Watch out, Dad.
L'une des vedettes des cartoons de la Warner, et le second, c'est Molang. Un lapin blanc qui piaille, conçu en France et diffusé dans le monde entier, deux icônes qui vont nous aider à comprendre l'évolution et le poids des dessins animés dans les médias. Bonjour Philippe Dana.
Bonjour Philippe.
Vous êtes Monsieur Sacartoon pour des millions de Français, en tout cas pour moi. L'émission a été diffusée pendant 22 ans en clair sur Canal. Les Toons, c'est vous qui les avez popularisés en France. Vous leur rendez hommage dans votre dernier livre Au pays des Toons, c'est publié chez Kero. Juste une petite question perso. Quel effet ça vous fait d'être ici dans ces locaux où se trouvait Canal+, où se trouvait votre bureau?
C'est la première fois que j'ai remis les pieds ici depuis peut-être 20 ans. C'est très curieux, c'est une drôle de sensation, mais ça a été très bien aménagé en tout cas.
Rockliner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'heureux papa de Molang, vous êtes le président de Millimage, le studio qui diffuse et qui dessine ce petit lapin dans des millions de foyers dans le monde. Et vous venez de lancer la quatrième saison. En deux mots, Rockliner, à qui s'adresse Molang? À partir de quel âge on peut le regarder?
Alors, pour les télévisions, c'est plutôt un programme préscolaire.
Préscolaire,
oui. Et puis, on est dans 200 pays dans le monde. Mais on s'est aperçu d'une chose, c'est que il y a une population très, très importante de jeunes adultes qui regardent Molang au travers des réseaux sociaux. Et là, le phénomène est dingue parce que ça nous a surpris. Et en même temps, c'est là qu'est la croissance exponentielle.
Ouais, la cible, c'était les 3-6 ans. Et là, Antoine Janton, notre rédacteur-chef, me dit que c'est 11 milliards de vues sur les GIFs. 11 milliards, c'est plus que l'humanité entière. Alors, Molang ne parle pas vraiment. C'est un peu comme les mignons, les petits personnages jaunes de la série de films d'animation Moi, Moche et Méchant. Ce sont que des que prononce Molang, ou est-ce qu'il y a des phrases?
Non, en fait, il y a des phrases et on a constitué un vocabulaire petit à petit. Ça s'appelle le molangais et les aficionados de la série commencent à reconnaître des mots et on peut s'exprimer en molangais maintenant.
Oui, alors la quatrième saison a été lancée il y a près de 3 semaines. Parmi ces inédits, il y a un épisode de Noël comme n'importe quelle grande série ou n'importe quelle série de grand... On comprend qu'il n'est pas content. C'est quoi les nouveautés de cette quatrième saison?
Alors, dans la quatrième saison, Molang et Piu Piu...
Ah oui, il y a Piu Piu, je l'avais oublié.
Vivent les aventures humaines de tous les temps, et de toutes les époques et de tous les endroits du monde. Et en fait, toutes ces histoires, qui dans la réalité se sont bien ou pas très bien passées, finalement, avec Molang et Piu Piu, tout se termine bien parce que ils ont cette aptitude au bonheur, ils ont cette compréhension entre eux, cette empathie qui leur permet de tout positiver et tout se termine dans beaucoup d'amitié et de bonheur avec Molang.
Philippe Dana, est-ce que Molang est un toon?
Molang est un personnage de dessin animé. Est-ce que c'est un toon? Ça, oui, on peut dire que c'est un toon.
C'est quoi la différence? C'est quoi la définition d'un toon, celle que vous leur donnez?
Moi, je suis parti d'une histoire de cinéma et donc de personnages qui ont été inventés il y a déjà près d'un siècle par des gens extrêmement connus comme Walt Disney, un peu moins connus mais très pertinents comme Tex Avery, Chuck Jones, Fred Schilling. Ils ont fait des personnages de cartoons parce que les cartoons, c'était des films qui étaient diffusés dans les salles de cinéma. C'est ce qu'Eddie Mitchell a très bien montré avec l'émission La Dernière Séance. C'est-à-dire que c'est des films qui étaient destinés à être passés avant les grands films. Et ils étaient faits, c'est peut-être la différence avec Molang, ils étaient faits vraiment pour un public d'adultes. Ce sont des adultes qui créaient des personnages avec des sujets qui les faisaient marrer autour d'eux. Pour des adultes, mais évidemment, comme les gens allaient au cinéma en famille, évidemment les enfants voyaient les personnages. Donc la différence entre Toon et pas Toon, je ne saurais pas vous la tenir très précisément, mon cher Philippe.
Dans votre livre Au pays des Toons, vous fixez une mission, inviter tous les Toons à l'anniversaire de Bugs Bunny, qui fête ses 80 ans cette année. Donc vous partez à leur recherche, à leur rencontre. Il y a le Coyote, il y a Popeye, il y a Daffy Duck, voyage imaginaire, qui vous donne l'occasion de revenir sur l'histoire de ces personnages. Premier exemple avec Betty Boop, c'est la première femme vedette d'un dessin animé.
I'm on my way to Grimm's. Oh, we've got good company.
Là, on est au début des années 30 et dès son apparition, Betty Boop incarne une femme libre, mais ça va vite changer.
Oui, à cause du code Hays. Le code Hays, c'est ce code qui régit le cinéma américain, qui régit Hollywood, à cause de grands scandales qui ont éclaté à la fin des années 20, notamment le scandale de Fatty Arbuckle, qui avait été accusé d'avoir violé et tué une femme dans un hôtel à San Francisco. Et donc le code Hays.
Quel rapport avec Betty Boop ?
Mais le rapport avec Betty Boop, c'est que le code Hays régit tout le cinéma et que quand Betty Boop démarre, le code Hays n'est pas encore en application. Et donc Betty Boop est créée par les frères Fleischer qui sont installés à New York, dont les animateurs travaillent dans le Bronx, à Brooklyn, ils viennent de la rue, ils ont le langage de la rue, un langage très cru. Et Betty Boop, à ses débuts, fréquente les musiciens de jazz, Cab Calloway, Louis Armstrong. Arrive le code Hays, et là, elle a, alors, à ses débuts, elle est particulièrement sexy. Dès que le code Hays arrive, on lui rallonge sa jupe, on l'affuble d'un chien, elle est femme au foyer et elle est totalement transformée. Ça, c'est l'histoire de Betty Boop.
Vous racontez également l'histoire des grands studios, Philippe Dana, Disney, ses deux grands atouts, des dessinateurs de génie qui créent Mickey, et un appétit pour l'innovation. C'est Disney qui sort le premier dessin animé sonorisé, ça s'appelait Steamboat Willie. On est en 1928, Mickey sifflote à la barre d'un bateau à vapeur. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'était une révolution.
Ben, c'est une révolution pour le cinéma, puisqu'on passe d'un seul coup des films muets aux talkies, aux films parlants. Et Walt Disney, son coup de génie, il y avait déjà eu des films parlants un petit peu avant. Il y avait eu un film de long métrage de la Warner qui s'appelle Le Chanteur de Jazz, qui marque l'évolution du muet vers le parlant. Mais en dessin animé, même si les frères Fleischer avaient fait des tentatives, c'est la première fois que Disney cartonne, pour le coup. C'est à Noël 1928, parce que les spectateurs sont tellement ébahi de voir le personnage se bouger avec du son, de les paroles, etc., qu'il réclame de voir le dessin animé plusieurs fois. Et Mickey prend cette place incroyable de numéro un du cinéma, là où Chaplin était celui des années 20. Mickey devient le personnage vedette des années 30.
Numéro un du cinéma, Mickey. Donc on parle pas d'un petit épiphénomène. Est-ce que les toons font de la thune? On en parle juste après ça avec Rock Lehner et Philippe Dana. À tout de suite. En compagnie de Rock Lehner, c'est le patron, le président de Millimage et Philippe Dana qui a publié Au pays des Toons chez Kero. On parle de dessins animés, on parle des Toons. Philippe Dana, vous revenez dans votre livre sur l'histoire de la Warner et de ses deux séries de dessins animés, les Merry Melodies et les Looney Tunes, Bugs Bunny, Daffy Duck, Titi et Gros Minet, Bip Bip, le Coyote entre autres. Impossible d'oublier ce générique. Générique qu'on peut passer en entier, ça fait seulement 15 secondes. Ça, c'était également le générique de sa cartoon. Autre générique marquant, celui de la série des Happy Harmonies, de la MGM cette fois. C'était le générique de Tom et Jerry, entre autres, on a l'impression qu'il se courait après. Deux noms dont vous racontez l'origine dans votre livre, Tom et Jerry, Philippe Dana, comment ont-ils été choisis ?
Par un concours interne au sein de la Metro Goldwyn Mayer, au sein du département animation. William Hanna et Joe Barbera, les créateurs, ont demandé au personnel comment ils voulaient appeler les personnages. Les deux personnages sont assez simples, hein, Tom et Jerry, même si Tom s'est d'abord au départ appelé Jasper. Je voulais juste faire un petit point, parce qu'on parlait, ce que les Toons font de la thune, et on parlait de Mickey juste avant la coupure pub. Mickey, donc on parle d'une petite souris qui naît en 1928. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Walt Disney Company, vraisemblablement pour 2020, ce sera 70 milliards de dollars.
On va parler, vous inquiétez pas, on va parler d'argent. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. On va parler d'argent. Je voulais savoir comment était né le nom de Molang, Rock Lehner.
Alors Molang, vous savez, la créatrice graphique est coréenne. Mmh. Et Molang, ça veut dire tout doux, comme lorsqu'on pince la peau de la joue d'un bébé, on dit la peau est toute douce. Voilà, Molang, ça veut dire tout doux.
En coréen.
En coréen. On a gardé le nom parce que c'est sympathique, ça sonne bien. Ça plaît.
Ouais, on est loin des courses-poursuites. Vous ne produisez pas que Molang chez Millimage, il y a également des dessins animés pour des enfants un peu plus grands, pour des ados. Est-ce qu'il y a des thèmes dont vous ne voulez pas parler dans vos productions ?
Alors, Millimage, on est plutôt orienté vers la comédie.
Ouais.
Et on n'a jamais fait de série de dessins animés avec des bons et des méchants.
Ouais, parce que quand on regarde les Toons, ils n'arrêtent pas de se courir après, de se faire du mal, ils veulent se bouffer. Tom et Jerry, Bip Bip le coyote, ils ont des armes, des bombes.
C'est encore possible aujourd'hui. C'est un style qui marche, mais c'est un style différent. Disons que c'est.
Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Est-ce que maintenant on pourrait encore faire un dessin animé avec un coyote qui a un couteau, qui veut tuer quelqu'un, un chat qui veut manger une souris?
Oui, absolument, on en fait. Mais on ne met pas de couteau, on ne met pas de bombe, on ne met pas de. Mais des gens qui se tapent dessus, oui, ça se fait.
On en vient au milliard. L'animation en France marche très bien. C'est le premier genre audiovisuel à être exporté devant les fictions. Vous en savez quelque chose, Roclénaire, Molang est vendu dans combien de pays?
200, à peu près.
Je veux dire, ça me fait marrer parce qu'on a vu ce chiffre et on s'est rappelé qu'il y avait seulement 197 pays à l'ONU.
Non, mais parce
ça veut
que
dire
ce
que vous vendez,
200...
vendez vos dessins animés dans des pays qui n'existent pas.
Non, ça veut dire c'est 200 territoires. On parle en termes de territoires plus qu'en termes de pays par l'ONU.
Plus sérieusement, est-ce qu'on a une idée du poids de l'animation dans l'industrie cinématographique, audiovisuelle, dans le monde? Et ensuite, la position de la place de la France?
Oh, je ne sais, franchement, je ne sais pas, parce que ça dépend du périmètre. Et comme le disait Philippe, le chiffre d'affaires de Disney, c'est 70 milliards. Et donc, ça comprend quoi? Je ne sais pas.
Le chiffre en d'affaires de Millimage?
12 millions.
12 millions. Vous êtes à quelle place en France?
C'est petit. Bon, on fait partie des 3-5 studios qui comptent en France. Mais on compte surtout au niveau mondial parce que, effectivement, notre exposition est très importante et Molang fait un parcours absolument incroyable. Mais il y a une chose importante à dire dans les modèles économiques, c'est que aujourd'hui, la propriété intellectuelle a transcendé son premier média qui est la télévision.
En fait,
6 personnes sur 10 qui regardent ou qui connaissent ou qui utilisent Molang viennent des réseaux sociaux. Ce sont des jeunes adultes, ce sont plus des enfants qui regardent les programmes préscolaires de la télévision.
Philippe Dana, à ce propos.
Sur la propriété intellectuelle, ce qui est très intéressant, c'est l'information qui est tombée cette nuit, c'est-à-dire le fait que Warner va sortir ses films 2021 à la fois dans les salles de cinéma et en streaming.
C'était dans le journal de Charles Decamps.
C'est toute l'importance des plateformes de streaming, donc HBO Max pour ce qui est de Warner, Disney Plus pour ce qui est de Disney. Et avec quoi nourrissent-elles leur plateforme? Avec la pérennité des personnages. Donc chez Warner, par exemple, les Looney Tunes font partie des actifs et des actifs qui sont déterminants pour le succès de leur plateforme. Ça, c'est très intéressant.
Alors, très étrange, vous qui présentiez une émission sur les dessins animés à la télé, on retrouve ces personnages en grande majorité sur les plateformes et pas à la télé, pas sur les chaînes. Pour quelle raison?
Alors ça, je ne saurais le dire. D'abord, c'est vrai qu'on peut aujourd'hui voir tous les cartoons en tapant sur Internet, on les voit très facilement, mais on les voit aussi sur les plateformes. Et sur les plateformes, ce que je voulais souligner, c'est que depuis le printemps dernier, Warner a recréé des séries Looney Tunes avec des épisodes inédits qui sont diffusés sur cette plateforme américaine qui s'appelle HBO Max, et d'ailleurs qui sont un petit peu édulcorés par rapport à celles de départ, puisque contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, Elmer ou Sam le Pirate n'ont plus d'armes à feu dans les nouvelles séries Warner. Et ça, c'est une volonté délibérée aujourd'hui de passer à quelque chose d'autre, parce que l'époque est différente. Rappelons-nous, les personnages dont on parle, ils ont 80, Betty Boop 90 ans, Mickey presque 100 ans.
Une des raisons pour lesquelles Molang ne parle pas, c'est d'abord parce que vous vous adressez aux très jeunes enfants, mais c'est aussi ça vous fait faire des économies de doublage.
Oui.
Est-ce que c'est entré en ligne de compte dans le processus industriel de création de Molang, Roclénaire?
Alors, les économies, oui, un peu, mais l'avantage, c'est surtout qu'on est capable de diffuser une nouvelle série au même moment dans le monde entier, sans attendre toutes les opérations de doublage qui, quelquefois, sont extrêmement longues, et ça dépend des pays. Mais donc là, il y a une concordance, il y a un momentum qu'on peut saisir dans l'utilisation, dans l'exploitation du personnage.
J'ai cru que vous alliez dire moment Tom et Jerry.
Non. Et pour revenir sur le modèle économique, je pense que le modèle économique aujourd'hui, il est basé sur les propriétés intellectuelles, comme le disait Philippe, et le modèle économique des propriétés intellectuelles, ce sont plus les droits dérivés que les programmes audiovisuels. Et d'ailleurs, à cet effet...
Vous gagnez plus d'argent avec les mugs, c'est qu'on voit quand on va dans les Euro Disney, on vend des produits dérivés, on vend de tout, des pantoufles, des casquettes, des t-shirts.
Là,
de Disney.
On vient de lancer Molang.com depuis hier soir, donc effectivement, c'est le modèle économique futur de Molang, mais enfin, maintenant... On parlait de propriétés intellectuelles qui ont 100 ans ou 80 ans ou 50 ans. Molang a 5 ans.
Ouais.
Et Molang a une carrière absolument incroyable pour sa jeunesse.
Et quand même une certaine notoriété, même une notoriété certaine, Roclénaire, et vous mettez cette notoriété au service de la lutte pour la protection de l'environnement. Molang apparaît dans la campagne de communication communication de l'association internationale Race for Water, qui se bat pour protéger les océans. Est-ce que là, vous offrez l'image de Molang ou est-ce que vous la, comment je pourrais dire, monétisez ?
Non, c'est pas de la monétisation. On offre l'image de Molang, qui sert effectivement comme média pour ses expéditions scientifiques, et ça sert de média pour exposer aux enfants du monde entier comment protéger les océans.
Merci beaucoup, Roch Lehner, président de Millimage. Merci beaucoup, Philippe Dana, grand spécialiste des Toons, au pays des Toons. Vous avez le livre avec vous, vous pouvez le montrer sur
europe1.fr. On a des caméras. C'est un récit joyeux et cinéphile.
C'est
je ne sais
publié,
pas quelle caméra elle est là.
Elle est là, la caméra. Elle est partout, il y en a partout. C'est publié chez Kero. Merci d'avoir été avec nous.